Gag Radio, le magazine féminin nouvelle génération.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Marine, bienvenue dans Yeg Radio, l'émission féminine nouvelle génération. On est ensemble pour une demi-heure pendant laquelle on décortique l'actualité rennaise au féminin. Et j'en profite évidemment pour vous rappeler que c'est aujourd'hui que sort le numéro 22 de YEG, avec un grand dossier consacré à l'érotisme dans la capitale bretonne. La rédaction a donc plongé au cœur des voluptés rennaises et on vous conseille de vous plonger dans la lecture de votre mensuel. Une adresse donc à retenir, c'est yegmag.fr. À mes côtés, Marie Lelevier, journaliste pour YEG. Bonjour Marie.
Bonjour Marine.
Tu as rencontré une autre Marie qui, elle, est la gérante du Bacchus.
Voilà exactement, un incontournable de Rennes, un café-théâtre où l'on peut apprécier les spectacles de nombreux humoristes.
Super, ben on va découvrir ça tout de suite après le 10 minutes avec. Donc avec nous également, Nofal Aloaab, animateur réseau Information Jeunesse Bretagne, qui vient nous parler de l'enquête sur la jeunesse bretonne, son rapport à l'information et ses priorités d'ici 2030. Bonjour Nofal.
Bonjour mesdames.
Merci d'être avec nous. Au sommaire cette semaine. On dresse le portrait d'Elisabeth Dubarré, auteure et éditeur de sa propre maison d'édition Bleu Turquoise à Thorigné-Fouillard. On passe 10 minutes avec Nofal Aloaab du CRIJ Bretagne, avec qui on détaille la troisième enquête sur la jeunesse bretonne. On vous fait entrer dans les coulisses du café-théâtre rennais Le Bacchus. Et évidemment, on retrouve vos rubriques traditionnelles en fin d'émission. C'est l'instant féministe et l'agenda des bonnes sorties. On la retrouve donc en ouverture du numéro 22 de YEG et c'est avec elle qu'on va débuter cette émission. Elisabeth Dubarré rend le quotidien poétique. On vous en dresse tout de suite le portrait. Elle vit à Thorigné-Fouillard, elle a des enfants, des petits-enfants, elle s'investit dans un club de femmes au service des femmes, Sort Optimiste International. Elle fait partie d'un groupe de chant, le Pommier Bleu, et elle a un long passé de commercial, un sacré parcours qui ne s'arrête pas là, puisqu'en 2006, Elisabeth Dubarré crée sa maison d'édition Bleu Turquoise Édition et va vivre de sa passion, la poésie. En tant qu'auteure et éditrice, elle publie des livres à destination du jeune public et lance un concept original puisqu'elle concilie dans ses ouvrages donc des poèmes, des illustrations qui sont réalisées par d'autres artistes et un support audio avec un CD sur lequel elle interprète les textes accompagnée de plusieurs musiciens et évidemment chaque musique qui varie en fonction du thème, du ressenti ou encore de la force des mots. Dans ses ouvrages, elle se raconte au travers de petites nouvelles. On peut parler de plein de choses dans Tranches de vie qui ciblent plus largement les ados et les adultes. Je décris un bouquet de fleurs mais aussi ce que j'aime comme l'Italie par exemple. C'est ce qu'elle nous a expliqué pour le numéro 22 de YEG. La poésie, pour elle, c'est du sens, des images et de l'émotion. Portée par les rimes, elle joue avec le rythme des phrases, la douceur des images, l'ineffable et même la beauté des souvenirs. Alors c'est certain, Elisabeth Dubarré, c'est un personnage, c'est une bavarde qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui n'a pas hésité à 40 ans à entamer des études d'histoire et qui a longtemps animé des émissions de poésie dans des radios, que ce soit en Mayenne ou encore à Saint-Malo. Cette année, elle prépare un roman et un nouveau livre intitulé « Avec Mamie » qui viendra compléter la collection des tout-petits qui comprend à l'heure actuelle les livres « Avec Maman » et « Avec Papa ». En parallèle, elle assure des animations dans les écoles mais également dans des structures demandeuses d'instants poétiques. Elle nous a expliqué que pour elle, l'oralité est l'essence première. Il y a aussi le plaisir de jouer la comédie. Quand j'écris, je revis mon enfance. Que je l'invente ou que je m'en souvienne. La littérature jeunesse profite alors aux petits et aux grands, Elisabeth Dubarré conclut en ces termes. À travers les histoires pour enfants, on est utile aux adultes, même ceux à qui on a volé l'enfance. Quand il y a des images et des émotions, ça touche tout le monde, ça fait du bien et ça fait grandir l'âme humaine. C'est donc un portrait à découvrir dans le numéro 22 de YEG, à lire évidemment sur yegmag.fr. www.radioscoop.fr. Alors dans cette émission, vous le savez, on ne passe pas du coq à l'âne, mais d'une grande femme à une autre grande femme. Je vous propose tout de suite de découvrir celle qui a eu la chance de prendre Johnny Cash comme mari, c'est June Carter, avec Jukebox Blues, une chanson écrite par sa maman et sa sœur, enregistrée en 1953. Jukebox Blues de June Carter, ça reste dans la tête et ça fout la pêche, on adore ça en tout cas chez Yegg. Une musique donc pas très actuelle, on vous l'a dit, 1953 ça date, mais on y vient au côté actuel avec la troisième enquête sur la jeunesse bretonne, présentée par le CRIJ Bretagne mi-janvier. Nofa Laloab est avec nous pour les 10 prochaines minutes, on en profite donc pour tout savoir sur le sujet. Alors Nofa, quel est l'objectif de cette enquête qui est réalisée tous les 3 ans ?
Bon, alors tout d'abord, merci de votre invitation. Très heureux de venir parler de cette enquête sur votre antenne et avec cette focale un peu sur les femmes. Bon, l'objectif de l'enquête, comme à chaque fois, c'est de produire de la connaissance sur les jeunes en Bretagne, puisque nous partons du constat que finalement, il existe assez peu d'études réellement centrées sur la jeunesse bretonne. Donc voilà, le premier objectif, c'est bien évidemment de produire de la connaissance sur cette étude. Ensuite, de la relayer. Donc bon, c'est pour ça que je commençais par vous remercier de l'invitation, puisqu'il s'agit bien d'un là en l'occurrence, mais plus globalement de la relayer auprès des acteurs publics, des décideurs politiques pour un peu les aider à réaliser un diagnostic sur la jeunesse et d'être en capacité de mieux accompagner les jeunes dans leurs besoins, qu'il s'agisse d'informations ou des autres thématiques qui sont présentes dans notre enquête. Je pense notamment à l'orientation professionnelle, à l'engagement, aux pratiques des langues bretonnes, et aux priorités. Globalement, ce sont les objectifs de l'enquête.
D'accord. Et alors pourquoi tous les 3 ans ?
Très bonne question aussi, parce que il faut du temps pour préparer ce travail-là, finalement. C'est vrai que là, on vient de présenter les résultats très récemment, lors d'une conférence de presse qui a eu lieu il y a 15 jours au CRIJ. Mais en réalité, moi, je travaille dessus depuis presque 2 ans maintenant. Parce qu'en fait, au départ, on réalise le questionnaire. Bon, on ne réalise pas tout seul dans notre coin. On est quand même, on travaille.
J'imagine qu'il y a des équipes.
Alors, on travaille en fait, en gros, à 3 niveaux. Tout d'abord, au sein du réseau Information Jeunesse Bretagne. Donc, ça représente 150 professionnels qui travaillent pour les jeunes dans toute la Bretagne, dans 65 points Information Jeunesse et 4 bureaux Information Jeunesse sur l'ensemble du territoire. En fait, pourquoi ce travail en réseau ? Puisque finalement, personne ne détient la vérité sur les jeunes, mais chacun un petit bout, quoi. Et c'est bien en croisant les regards, puisque les jeunes qui vivent en zone rurale dans le Morbihan sont pas forcément les mêmes ou n'ont pas forcément les mêmes pratiques et usages que ceux qui vivent en milieu urbain dans les 2 principales métropoles bretonnes que sont Brest et Rennes, et ainsi de suite, quoi. Finalement, selon les territoires, littoral, rural, bref. Donc c'est déjà intéressant de, bah, d'abord de se rassembler avec les gens qui travaillent avec les jeunes au quotidien pour essayer d'imaginer le questionnaire ensemble. Je parlais de plusieurs niveaux. Le second niveau, c'est avec le cabinet d'études statistiques, mmh. avec qui on travaille depuis la première enquête. Donc le cabinet GECE, pour ne pas le citer, n'est-ce pas ? Et donc avec ce cabinet, en fait, on voit un peu une étude de faisabilité par rapport aux questions, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont pertinentes ? Est-ce qu'elles nous permettront de produire des résultats et ensuite des analyses qui seront pertinentes elles-mêmes. Et puis le dernier niveau, c'est avec nos financeurs, puisque bien évidemment, un travail de cette ampleur, ça coûte aussi pas mal de sous. J'imagine. Et donc nous, c'est notamment la région Bretagne et la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, en gros pour simplifier l'émanation du ministère de la jeunesse et des sports en région. Et donc ce sont avec ces partenaires ensuite qu'on fait une relecture du questionnaire et il se peut qu'ils nous suggèrent parfois des thématiques ou des questions à l'intérieur de thématiques. C'est ce qui s'est produit sur cette enquête avec les langues bretonnes et les priorités qui sont globalement des commandes de la région Bretagne.
D'accord. On peut penser que c'est un peu orienté du coup.
Alors c'est orienté, oui et non, vous avez raison, c'est orienté par rapport à ces thématiques qui ne sont pas imposées, on en discute bien évidemment. Mmh. Si on n'avait pas d'intérêt pour les langues bretonnes, on aurait poliment répondu à la région Bretagne que bon, les langues bretonnes, voilà, ça ne nous intéresse pas. Pour le coup, à l'inverse, nous on pense qu'il y a un intérêt puisque bah, il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet, donc quand on nous propose ça, on est d'accord et ça tombe bien. Comme
oui,
ça, tout le monde est d'accord.
Pour le coup, les chiffres montrent quand même qu'il y a un intérêt de la jeunesse bretonne
tout
pour
à
les
fait.
Langues bretonnes.
Et ce qui n'est pas orienté, pour le coup, par contre, ce sont les thématiques qu'on reprend à chaque fois. Et là, donc, c'est les besoins d'information, le rapport au numérique et l'orientation professionnelle. Ça, pour le coup, nous, ce sont des sujets centraux. Et voilà, on les reprend tous les 3 ans, notamment pour pouvoir faire des comparaisons.
D'accord. Et alors, justement, pour cette enquête, donc 4500 jeunes bretons de 15 à 29 ans ont été interrogés. Alors, au début de l'enquête, il est écrit donc que les femmes y sont surreprésentées, 58% de femmes. Comment on explique justement qu'il y ait une part plus importante de femmes pour une fois ?
Il y a toujours des choses un petit peu mystérieuses comme ça qu'on n'explique pas complètement. Non, plus sérieusement, en fait, on est beaucoup passé par les établissements scolaires hein, pour essayer de toucher quand même beaucoup de jeunes et les établissements d'enseignement en général. On a regroupé hein, sur les 4500 jeunes, ça représente quand même 2225 jeunes très exactement qui ont répondu soit en lycée, soit en établissement universitaire, soit en IUT, en centre de formation des apprentis, ainsi de suite. Je décline pas, mais voilà. Et on peut présupposer, mais là c'est une hypothèse, que les femmes se sont plus facilement prêtées au jeu que les hommes, qui peut-être, devant la longueur du questionnaire, la complexité de certaines questions, se sont vite découragées, se sont dit « oh là, bah moi je vais pas au bout ». Et bon, nous quand on parle des 4500 questionnaires, ce sont les exploitables. Hein. Mais si on prenait l'ensemble des gens qui ont répondu, je pense qu'on est plus proche entre 5500 et 6000. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questionnaires aussi qu'on n'a pas gardés, qu'on a jetés, parce que du coup, bah, ils n'étaient pas remplis intégralement ou mal remplis. Et voilà, je pense que ça concerne moins les femmes qui, elles, l'ont rempli de manière assez précise du début à la fin. C'est ce qui explique qu'au départ, elles sont surreprésentées dans l'échantillon.
D'accord.
Seulement, une fois qu'on a cet échantillon, on procède à un redressement statistique, donc à l'aide du statisticien, évidemment, hein, puisque nous, on n'est pas forcément outillé pour le faire. Donc lui se base tout simplement sur les derniers recensements disponibles et compare en fait la proportion dans notre échantillon à la fois des femmes mais aussi des élèves étudiants, des chômeurs et ainsi de suite. Et en fait, opère un redressement statistique pour faire correspondre les chiffres de notre échantillon à la réalité de la jeunesse bretonne. Et donc à partir de ce moment-là, on ne parle plus d'échantillon mais on peut parler des jeunes bretons puisqu'on a fait correspondre les volumes, les proportions. Ce qui fait que par rapport aux 57% de femmes qui ont répondu initialement, on arrive à retomber ensuite dans une proportion qui est plus juste, qui est de 49% de femmes en Bretagne et 51% d'hommes.
Finalement, ça s'inverse.
Exactement.
Et alors, justement, on en parlait en off tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une différence significative entre les réponses d'hommes et de femmes ? Parce que finalement, dans l'enquête telle que vous l'avez donnée à la presse, on ne voit pas, il n'y a pas à chaque fois des catégories hommes et femmes.
Voilà. Alors en réalité, donc au-delà des 6 thématiques qui composent l'enquête, il y a une dernière partie qui est un talon sociologique, qui nous permet de mieux connaître qui sont les personnes qui répondent. Et la première question de ce talon sociologique est « Vous êtes un homme, une femme ?» Donc ce qui signifie qu'avec ce talon sociologique, on peut opérer des croisements. C'est-à-dire, on peut s'intéresser aux besoins d'information des femmes de 15 à 19 ans, des hommes de 20 à 24, ainsi de suite. C'est ce qu'on fait au départ. Avec l'aide du statisticien, il nous remet des rapports d'analyse approfondis sur chaque thématique. Et là, il y avait effectivement certaines données qui étaient disponibles sur les hommes et les femmes. Bon, dans le rapport de synthèse final, il y en a, mais très peu, comme vous l'avez souligné à juste titre. Globalement, on en avait plus. Pourquoi elles ne sont pas présentes dans le rapport final ? pour deux raisons principalement. Tout d'abord parce que très souvent, elle ne présentait pas de différence significative. Alors j'en ai quand même ramené quelques-unes avec moi. Hein. Par exemple, les besoins d'information en lien avec la vie professionnelle selon le sexe et l'âge. Excusez-moi, les intitulés sont un peu longs, un peu compliqués. Alors là, en l'occurrence, par exemple, on avait pris la donnée, la modalité travail. On a comparé entre les hommes et les femmes, sur tous les âges, mais là, je m'attarde exprès sur la tranche d'âge 15-19 ans. 31% d'hommes disent s'informer prioritairement sur le travail entre 15 et 19 ans, et 30% de femmes entre 15 et 19 ans s'informent sur le travail. Un point de pourcentage de différence. Le statisticien a dit avec la marge d'erreur, c'est comme s'il n'y avait pas de différence. Là, pour le coup, nous, on n'a pas d'intérêt à présenter cette donnée, puisque l'étude est déjà assez longue, il y a beaucoup de graphiques, beaucoup de données, donc les différences qui ne sont pas significatives, on ne les met pas en avant. Et la deuxième raison, c'est que parfois, il y avait des différences de quelques points de pourcentage. Là, on était sur 4-5% parfois sur certaines données. Mais j'ai envie de dire, ce sont des données qui parfois peuvent venir un peu enfoncer des portes ouvertes ou perpétuer des clichés qui seraient de dire...
Comme notamment sur la santé.
Les femmes s'intéressent qu'à la santé, prévention santé, alors que les hommes, qu'au travail et au loisir, bon, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même des nuances selon les sujets. Et ce n'est pas toujours le cas. Bon, pour autant, sur la santé, prévention, santé, j'ai aussi ramené le chiffre qu'on n'a pas reproduit ici dans la synthèse finale. Bon, c'est vrai que sur santé, prévention, santé, sur chacune des trois tranches d'âge, 15, 19, 20, 24, 25, 29 ans, c'est du simple au double. Les hommes s'intéressent à la prévention santé pour 7% d'entre eux entre 15 et 19 ans, 16% pour les femmes, 4% chez les hommes de 20 à 24 ans, 17% chez les femmes et 9% chez les hommes de 25 à 29 ans, 18% chez les femmes. Là, c'est très significatif, mais au final, est-ce que c'est étonnant ? Je vais juste prendre un exemple. Dès qu'on touche aux questions liées à la sexualité, ce qui peut en découler, la contraception, effectivement, les femmes, quand elles sont en âge de procréer et qu'elles veulent faire attention, elles vont aller se faire prescrire une pilule. Enfin, ça, c'était de mon époque. Maintenant, elle est même en vente libre. Les hommes, au final, c'est pas forcément la première préoccupation. Le préservatif peut-être, mais le préservatif est tellement rentré dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on parle encore de santé, prévention, santé ? Un petit peu, oui. Mais je veux dire, sans doute que les femmes sont tout de suite plus en alerte sur ces choses-là, puisque derrière, c'est pas l'homme qui va voir son corps bouleversé par un bébé qui va y apparaître et qui va porter pendant 9 mois. Alors que les femmes, elles, forcément, ont un intérêt plus pointu sur la question, et ça s'explique. Donc voilà.
En effet, mais par contre, il y a des données, donc notamment au niveau des priorités, qui sont un peu plus étonnantes, comme au niveau des loisirs, les femmes apparemment s'y intéressent moins que les hommes et s'intéressent plus aux études que les hommes. Alors, on peut se dire quand même que la tendance est en train d'évoluer, en tout cas.
Je pense, mais je reprends ce que vous avez dit, c'est vrai que si on regarde les chiffres sur les priorités des jeunes bretons, et quand c'est présent dans le rapport de synthèse, j'en profite au passage pour dire que tous les auditeurs qui sont intéressés peuvent retrouver l'intégralité de ce rapport de synthèse téléchargeable gratuitement sur le site ij-bretagne.com. Mais là, globalement, pour reprendre ce chiffre, alors effectivement, les femmes s'informent, ont moins de priorité sur les loisirs. Pour autant, c'est quand même une femme sur deux qui dit que les loisirs sont une priorité. Importants. Mais c'est vrai que si on compare aux hommes, 62% d'hommes mettent les loisirs comme priorité, les femmes 49%. Et les études, à l'inverse, 40% de femmes pointent les études comme une priorité contre 25% d'hommes. Bon, là, en l'occurrence, ce sont des différences significatives, puisque notamment pour les études, on est sur un rapport qui est presque du simple au double. Là, ça nous intéressait de le mettre en avant. On l'a mis dans la synthèse.
Oui, à chaque fois que c'est des hommes et des femmes. Et alors, on n'a pas le temps, malheureusement, de détailler toute cette enquête. Par contre, rapidement, pour conclure, est-ce qu'on voit une évolution quand même les rapports deviennent... peut-être de moins en moins significatifs, la différence, en tout cas, depuis la première enquête en 2007.
Tout à fait. Dans la première enquête de 2007 et dans celle de 2010, on trouvait plus de données genrées parce qu'il y avait justement des différences plus significative. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que les choses sont un peu en train de se tasser, qu'on est plus sur un diagnostic de la jeunesse. Quelques légères différences entre les hommes et les femmes, mais globalement, les centres d'intérêt sont très proches. Ce qui a pu évoluer, c'est par exemple, notamment parler de la santé, prévention, santé. En 2007, chez les hommes, on était entre 0 et 1%. Voilà, globalement. D'accord. Et là, c'est en train de remonter. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne va pas le répéter, c'est peut-être plus important pour les femmes à un certain âge. Mais néanmoins, les hommes sont en train de se réveiller petit à petit, avec l'aide des femmes, bien sûr. Mais sont en train de se réveiller petit à petit sur ces questions-là. Et de la même manière aussi, je finirai là-dessus, sur les loisirs, c'était peut-être beaucoup moins prégnant dans les études de 2007 et 2010. Là, je le rappelle, même s'il y a un déficit par rapport aux hommes en tant que priorité sur ce point précis des loisirs, pour autant, on a quand même une femme sur deux qui pointe les loisirs comme priorité. C'est très important quand même.
Très bien, ça fait du bien à l'égalité homme-femme en tout cas.
Tout à fait.
Donc cette enquête, on la retrouve, hein, on l'a dit, www.ij-bretagne.com. Merci beaucoup Nofal, hein, pour votre éclairage sur
Merci
le sujet. Dans un instant, Marie, tu nous amènes dans les coulisses du Bacchus. C'est juste après une pause musicale en compagnie de Holly Seas. Bonne écoute sur YEG Radio. De Holly Seas, hein, connue sous le nom de Cécile Cassel, évidemment, ça donne envie de danser à la flash dance. Je ne sais pas ce que t'en penses, Marie. En tout cas, de la danse à la flash dance au Café Théâtre, j'ai envie de dire qu'il n'y a qu'un seul pas et qu'on le fait tout de suite avec toi, Marie. Marie, tu vas nous parler aujourd'hui d'un endroit un peu spécial à Rennes où théâtre et cuisine s'accordent merveilleusement bien.
Et oui Marine, je vais vous parler du Bacchus, un endroit situé 23 rue de la Chalotée à Rennes, d'un café-théâtre bar à vin, style bistrot, où les gens peuvent à la fois boire un verre, grignoter une assiette apéro ou déguster une suggestion du jour et profiter d'un spectacle. Tout ça dans deux pièces indépendantes l'une de l'autre, puisque l'on peut très bien s'accouder au bar sans être obligé d'assister à une représentation et vice-versa. Le lieu existe depuis 1995 et est tenu par Laurent et Marie Marcouillou, un duo complice et organisé où chacun tient son rôle. Laurent est derrière le bar et s'affaire en cuisine avec des produits du terroir, tout en s'occupant de l'accueil et de la programmation. Et Marie gère la partie communication et administrative. Il propose tous les soirs du mardi au samedi une belle ardoise et puis un spectacle d'humour ou de chansons humoristiques avec des artistes qui restent en moyenne 15 jours à 3 semaines. Ainsi, Fabrice Eboué, Florence Forestier avec les top modèles, Romain Bouteille, Isabelle Deher ou encore encore Laurent Violet sont passés au Bacchus, on commence à être connus au niveau de la France, m'a expliqué Marie Marcouillou, puisque des artistes les contactent régulièrement pour venir jouer chez eux. Il faut dire que le couple s'est battu et a beaucoup travaillé pour être reconnu dans le milieu et dans la capitale bretonne, en assistant à chaque spectacle joué chez eux, en allant régulièrement dans les cafés-théâtres de Lyon et au Festival d'Avignon tous les ans, un endroit incontournable pour tous les férus de théâtre, pour se tenir bien sûr au courant de ce qui se fait de mieux. On fait attention que les spectacles soient bien écrits, bien joués, jamais vulgaires, m'a confié la gérante, et on suit les artistes, certains ont du potentiel, mais des choses sont à revoir. Dans ce cas-là, on attend, on retourne les voir, et là, si ça nous plaît, on leur propose de travailler avec nous. Comment est né le concept ? Eh bien, assez logiquement, en fait. Laurent a travaillé sur Lyon, qui est la capitale des petits théâtres, des petits cafés-théâtres. Quand on est arrivé au 23 rue de la Chalotais, il y avait un sous-sol, alors l'idée est venue, c'est ce que m'a expliqué en tout cas donc la femme du couple. Il faut savoir que les 10-12 premières années ont été assez difficiles, toujours selon cette femme, la culture rennaise étant beaucoup plus musicale que théâtrale, et les Rennais et les Rennettes davantage habitués aux concerts gratuits qu'aux cafés-théâtres payants. Heureusement, durant toute cette période, les artistes les ont soutenus et ont vraiment joué le jeu. Il y avait un très bon esprit, m'a confié Marie Marcouillou. La plupart sont devenus des copains et viennent d'ailleurs leur rendre visite. C'est le cas de Fabrice Eboué qui est passé récemment avec une équipe de télévision pour filmer ses débuts. Depuis son ouverture et jusqu'à aujourd'hui, le Bacchus se veut un endroit convivial, familial, où l'on peut retrouver l'artiste au bar pour discuter en toute simplicité. La clientèle est formidable, m'a confié la gérante. Les Rennais sont bons publics, demandeurs, ils nous font confiance, notamment sur notre programmation. Ils viennent voir les spectacles, mais crise oblige, se freinent tout de même sur les consommations. Actuellement, c'est un homme qui joue sur la petite scène du Bacchus, Jérémy Creutheville. Il sera suivi d'ailleurs par un autre Jérémy, Jérémy Charbonnel. Côté femme, il faudra attendre le mois de septembre pour assister au spectacle de l'humoriste Nao, et octobre-novembre prochain pour voir au Bacchus Isabelle Parzi, célèbre pour son sketch La Belle-Mère. Voilà, pour ce lieu donc incontournable de Rennes que peut-être les auditeurs connaissent déjà. Pour ceux en tout cas qui n'y sont jamais allés, je le conseille vivement.
Eh ben c'est super, merci beaucoup Marie. Sans transition, on passe à l'instant féministe, la rubrique qui vous fait découvrir la culture féminine. Un petit nouveau, ou plutôt une petite nouvelle devrais-je dire, vient de débarquer dans les kiosques. Il s'agit de Babette, dont le slogan est « Le féminin sans langue de bois ». Ce bimestriel de 82 pages vient donc compléter la famille des féminins nationaux nouvelle génération, qui cherchent à égaler leur modèle, à savoir Cosette. Il y a quelques mois, Bridget provoquait la grogne de ce dernier, qui a bien évidemment dénoncé un affreux plagiat. Alors Babette ne fait pas encore des mules, sur la toile tout du moins, pourtant la une fait terriblement penser aux compositions visuelles du mensuel, plus féminin du cerveau que du capiton. Alors quand on ouvre le magazine et qu'on en feuillette les pages et les rubriques, la lecture n'est pas fascinante, faut bien l'avouer. Le ton et les sujets oscillent entre Cosette et les féminins traditionnels, sans toutefois trouver sa place et son créneau. On passe alors de l'édito un peu mielleux, je cite. Oui, oui, je sais, Babette, ce n'est pas facile à porter. Justement, en dépit du déplorable usage qu'en a fait la célèbre marque de produits laitiers, qu'on répugne à nommé ici, la rédac a choisi d'assumer son choix. Voilà un prénom qu'il est urgent de réhabiliter tant cette crème si mal nommée l'a discréditée. De l'édito donc un peu mielleux ou crémeux, pourrait-on plaisanter en usant de mauvais esprit, à l'actu chaude du moment, à savoir le projet de loi visant à restreindre les possibilités d'avortement en Espagne. Si les sujets s'avèrent intéressants, le traitement en revanche est beaucoup moins attrayant, puisque les articles ne comportent généralement pas de citations de personnes interviewées, mais se veulent plutôt un pot pourri de recherches effectuées à droite et à gauche, insérées dans une maquette un peu bancale qui ne sert pas tellement l'info qui est mise en lumière. Sans toutefois en déconseiller la lecture, car quand même, la curiosité reste un bien joli défaut, on préfère simplement se dire que le premier numéro n'est pas forcément à la hauteur des ambitions, et on espère justement découvrir au fil des mois et des numéros une qualité de plus en plus irréprochable, et y apprendre bien évidemment un tas d'informations concernant l'actualité féminine, puisque ça reste quand même l'objectif. Souhaitons donc à Babette et à son équipe une bonne continuation. En tout cas, chez Yeg, on est un féminin nouvelle génération, rennais en prime, ce qui nous permet de vous sélectionner les bonnes sorties rennaises. Hey girl, what should... Et maintenant, l'agenda de la semaine avec toi, Marie.
Et oui, Marine, que se passe-t-il à Rennes et dans ses environs du 5 au 12 février ? Bien noté que demain soir, à partir de 21h au Bliss, au Parc des Gailleuls à Rennes, sera proposée une soirée Bilbao spéciale impro d'Azibao avec des concerts, du théâtre, des battles de danse, du patinage et des jeux jusqu'à 2h du matin organisés par le Crige Bretagne. L'événement sera accessible aux personnes en fauteuil roulant et sera également gratuit. Puis notez que le vendredi 7 février à 20h30 au Centre culturel L'Intervalle à Noyelles-sur-Vilaine sera interprétée une pièce texane de Claude Brumachon, une représentation chorégraphique créée en 88 pour 6 danseurs qui abordent les thèmes de l'amour et de la haine dans les années 60. Un spectacle de danse donc contemporaine, bouleversant, intense et romantique à découvrir absolument.
Merci beaucoup Marie. L'émission touche à sa fin. Je rappelle que vous pouvez suivre toute l'actualité rennaise au féminin sur yegmag.fr et n'oubliez pas le numéro 22 est sorti. Et la semaine prochaine, nous consacrerons l'émission au dossier du mensuel, l'érotisme à la rennaise. Alors merci Nofal Alouab d'être venu nous présenter la troisième enquête sur la jeunesse bretonne. Il a dû filer, mais évidemment, vous l'avez entendu dire merci, au revoir tout à l'heure. Je remercie toute l'équipe de YEG Radio, Mathias qui réalise cette émission, Marie Lelevier, journaliste pour YEG. Le mot de la fin, Marie.
À la semaine prochaine.
C'est très bien.
Avec plaisir.
C'est très bien. On vous laisse en compagnie de Thomas Guézou et de votre émission sur écoute. Merci à toutes et à tous. On se retrouve dans YEG Radio la semaine prochaine. Même jour, même heure. Musique.